Le chevalier de la Barre a été exécuté à Abbeville le 1er juillet 1766. Il est mort avec courage et une tranquillité sans exemple. L'arrêt le déclare atteint et convaincu d'avoir passé à 25 pas devant la procession du Saint-Sacrement sans ôter son chapeau et sans se mettre à genoux, d'avoir proféré des blasphèmes contre Dieu, la Sainte Eucharistie, la Sainte Vierge, les saints et les saintes mentionnés au procès, d'avoir chanté deux chansons impies, d'avoir rendu des marques de respect et d'adoration à des livres impurs et infâmes, d'avoir profané le signe de la croix et les bénédictions en usage dans l'Église, voilà ce qui a fait trancher la tête à un enfant imprudent et mal élevé au milieu de la France du XVIIIe siècle. Dans les pays d'Inquisition, ces crimes auraient été punis par un mois de prison suivi d'une réprimande. Le texte que vous venez d'entendre a été écrit par le baron Melchior Grimm, qui fréquentait les philosophes et les salons, et qui, dans sa correspondance littéraire, philosophique et critique, rendait ainsi compte de l'événement de l'exécution du chevalier de la Barre.
Depuis la nuit des temps, on s'étripe gaiement au nom de Dieu. On continue pourtant en faisant toujours mieux, il est jamais content. On lui a fait des églises pour calmer son courroux, courroux, coco. Des temples et des mecs, ou des femmes et des mecs, l'honneur est à genoux. Parmi tous ces mordus, ces millions de fanas, toutes ces brebis, il y a ceux qui adorent Jésus, ceux qui préfèrent Allah, d'autres leurs canaries. Si t'es athée, sais-tu, pour ces gars t'es foutu, turlututu. Ils disent que tu te bourres et que Dieu est amour et après ils te tuent. On brûla les sorciers, les homos sans papier, les francs-maçons. Et même on fit becter à de pauvres lions, Blandine et les garçons. Le bon roi Saint-Louis massacra les harkis jusqu'à Tunis, puis revint sous le gui mettre l'étoile aux juifs et rendre l'injustice. Charles IX le Cateau offrit au parpaillot au nom de Dieu. La Saint-Barthélemy, les Irlandais depuis n'ont pas fait beaucoup mieux. Monsieur Christophe Colomb, qu'il vendredi n'aimait que le poisson, cria au chalumeau le grand Géronimo qui mangeait du bison. Pas de préservatif, dit le souverain pontife au nom de Dieu. Et cette manière sage de réduire le chômage en fit un homme heureux. Il y a ces fous de Dieu qui, au nom de la vertu, chapeau pointu, égorgent bravement des femmes et des enfants en lisant le Coran. Depuis la nuit des temps, on s'étripe gaiement au nom de Dieu. On continue pourtant en faisant toujours mieux, il est jamais content. Si ce Dieu juste et bon n'envoie ses oraisons qu'à des tueurs, doit-on penser qu'alors l'oraison du plus fort est toujours la meilleure? Doit-on penser qu'alors l'oraison du plus fort est toujours la meilleure? Est toujours la meilleure?
Il m'a fallu des années, et c'est long, pour ôter de moi toute religion, ce que c'est quand même que les habitudes et la trouille. Peur de déplaire à sa famille, peur déjà de supporter sa dernière heure, sans qu'aucun espoir d'un monde meilleur ne gazouille. Enfin j'en suis sorti, et c'est tant mieux, mais voilà que mon fils ouvre les yeux, ne demandant qu'à croire aux merveilleux évangiles. Qu'il me pardonne de lui dégonfler son super. Herman pour bande dessinée voudra vivre sans lui, tant pis si c'est moins facile. Et Jésus, depuis le début des temps, il y en eut plus d'un, heureusement, à vouloir nous sortir de notre banc de galère. À prêcher l'amour, à prêcher la foi, par des miracles épater le bourgeois, et alors je ne vois là rien d'extraordinaire. Il guérissait les malades, et puis quoi? Des guérisseurs, j'en connais deux ou trois, dont la mère n'était pourtant pas immaculée. Ton Jésus, range-le chez les héros, admire-le sans chanter de credo, et des églises, ne va pas croire aux contes de fées. Puis, quand tu seras sorti de là, ne tombe pas de caribe dans Scylla, tu sais, tous les prêtres ne donnent pas le baptême. Il y en a qui hurlent, garde à vous, d'autres prolétaires, unissez-vous, mais regarde-les de près, ce sont tous les mêmes. Des gens qui veulent t'apprendre à penser, rien que par réflexe conditionné, à marcher au pas en brandissant des emblèmes. Méfie-toi des rouges, des blancs et des noirs, ne cotise pas chez les marchands d'espoir, vis ta vie tout seul, écris ton histoire toi-même.
Bonjour. Il y a 250 ans, jour pour jour, le 1er juillet 2016, était supplicié Antoine Lefebvre, dit le chevalier de la barre, alors âgé de moins de 20 ans. Un triste jour pour les laïcards dont nous sommes, puisque le motif officiel de cette exécution était le refus du dit chevalier de saluer une procession religieuse. Nous avons déjà commémoré l'événement pour l'anniversaire de ses 235 ans, le 19 février 2001, dans une émission Bistentlac. Aujourd'hui, que le compte est bien rond, 250 années, nous vous proposons de réentendre cette émission, qui a bien entendu conservé toute son actualité. Au fil de cette émission, vous en apprendrez beaucoup sur cette affaire, en même temps que vous seront proposées diverses chansons bien senties en rapport avec le sujet. Bonne écoute anti-religieuse.
Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Et nous, nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si jolie, avec ses mystères de New York et puis ses mystères de Paris, qui valent bien celui de la Trinité, avec son petit canal de l'Ourcq, sa grande muraille de Chine, sa rivière de Morlaix, ses bêtises de Cambrai, avec son océan Pacifique et ses deux bassins aux Tuileries, avec ses bons enfants et ses mauvais sujets, avec toutes les merveilles du monde qui sont là, simplement sur la terre, offertes à tout le monde, éparpillées, émerveillées elles-mêmes d'être de telles merveilles et qui n'osent se l'avouer, comme une jolie fille nue qui n'ose se montrer, avec les épouvantables malheurs du monde qui sont légions, avec leurs légionnaires, avec leurs tortionnaires, avec les maîtres de ce monde, les maîtres avec leurs prêtres, leurs traîtres et leurs raîtres, avec les saisons, avec les années, avec les jolies filles et avec les vieux cons, avec la paille de la misère pourrissant dans l'acier des canons.
À Paris, dans le 18e arrondissement, se trouve une rue du Chevalier de la Barre, près de Montmartre. Deux statues ont été élevées à sa mémoire. La première fut inaugurée à Montmartre le 3 septembre 1905 et porte sur son socle l'inscription « Chevalier de la Barre, supplicié à l'âge de 19 ans pour n'avoir pas salué une procession ». La seconde est à Abbeville, elle est datée de 1907, elle porte l'inscription « Monument élevé par le prolétariat à l'émancipation intégrale de la pensée humaine ». Xavier Pasquini écrivait dans le Charlie Hebdo du 20 août 1997, le numéro 270. En 1905, donc, Clémenceau fit ériger une statue à la mémoire du chevalier de la Barre, âgé de 19 ans, torturé et brûlé vif le 1er juillet 1766. Pas n'importe où, cette statue, en face du Sacré-Cœur, basilique construite pour expier les crimes de la Commune, entre guillemets. En 1926, pour ne pas choquer la vue des pèlerins montant vers la basilique, la statue fut déplacée Square Nadar. En 1942, sous Pétain, elle fut fondue sur ordre du gouvernement de Vichy pour servir à couler des canons allemands. Aujourd'hui, le socle de pierre est toujours intact. Au moment où le pape et l'Église catholique mènent une offensive sans précédent contre la laïcité républicaine, des laïcs combattants pour la liberté absolue de conscience ont créé une association pour ériger une nouvelle statue du chevalier martyr. Une souscription fut donc ouverte. Il faut réunir environ 200 000 francs. L'adhésion est de 25 francs minimum, les dons sont libres. D'autre part, les dirigeants de cette association lancent un appel pour collecter toute information concernant les statues ou les rues du Chevalier de la Barre existant encore en province.
Mettez en brume deux doigts de sainteté. Saupoudrez le tout d'une once de vérole. Et sauce faite, ajoutez deux gouttes de pitié pour une pauvre cité qui se dit métropole. Ne pas oublier les tonnes de prétentions qui font d'un cimetière une capitale. L'Hexagone a ses morts et beaucoup sont bretons. Le 11 novembre chez nous est fête nationale. J'accuse tous ces temps de vaines glorioles, d'être culottes macabres et camailles de religion. J'accuse les églises qui roulent tout l'or du pactole, de givrer tout homme et d'en faire un couillon. Et tous ces bastions que la bêtise seule habille, attendent encore ce jour la prise de la Bastille. Livre des temps d'inquiétude, chantez les dieux qui ne se nomment plus, écrire un chemin parmi les solitudes, des villes et des champs et des monts perdus. Lundi. C'était un lundi de douce Irlande, une terre couchée sous une toison d'aubépine, des temps de folles sarabandes où s'est glissé parfois le fusil et la famine. C'était l'aurore aux mille trompettes de guerre, la piste des loups croisée la pâture, une armée de pouilles où les matrones sont viandières, c'était l'aube du soldat, du traître et du parjure. L'esclave du roi n'est que mendiant en République. Les barons du régime boivent aux coupes de Versailles. Ils ont la tripe royale et le discours démocratique.
à chaque coup le croquant le reste de la canaille. À toute armée de gueux, il fallait une simèse. Et les mondes chez nous attendent encore leurs Pâques irlandaises. Vivre des temps et des temps d'inquiétude, chanter les vieux qui ne se nomment plus, écrire un chemin parmi les solitudes, des villes et des champs et des monts perdus. La glèbe est douce au pas du paysan. Pour 3 sous, elle te dérationalise. Ça te fout la chiasse aux premières dents et te voûte le dos en tour de bise. Ça t'accroche aux doigts de fumure, te fait la gueule sale et les pieds puants. Et la tantouse bourgeoise qui chante la nature n'a jamais vu de près le cul d'un manant. Ils sont de même race que leurs chevaux, bras de sollicitude et des mains de bourreaux. Ils ont dans les yeux 3000 ans de silence et sur la peau 3000 ans de tempête. Mais pour un seul épi que l'été met en fête, ils parlent de silos, de moissons, d'abondance. Vivre des temps et des temps d'inquiétude, chanter les dieux qui ne se nomment plus, écrire un chemin parmi les solitudes, des villes et des champs et des monts perdus. La cité appartient au négoce, au malfat. La taverne brigande vend la pute aux bourgeois. La faune des nuits réhabille ses dames. On y parle d'alcôve et de touffes poétiques. Monsieur Uterin, que le démon de l'âge habite, ajoute au plat du jour les hanches de madame. Julot l'arquebuse, qui ne sut jamais les manières, étale dans un bar la cramouille de sa rombière. C'est l'heure où s'échappe des demeures conventuelles le chant du sieur abbé que tutoie une pucelle. Imite de ton chant clos les ragoûts du carême. La cité met en sauce les Pâques républicaines. Une ronde d'honneur, messieurs de la Carmagnole. Les nuits de mai attendent encore les fèvres espagnoles. Vivre des temps et des temps d'inquiétude, chanter les dieux qui ne se nomment plus, écrire un chemin parmi les solitudes, des villes et des champs et des monts perdus.
Et nous voici donc en ce mois de février 2001, presque 4 ans plus tard, 4 ans de souscription, de relance auprès des personnes intéressées. Et voilà que donc le 24 février 2001 à 11h, Square Nadar à Paris, la statue du chevalier de la Barre va être à nouveau inaugurée. Celle-là sera l'œuvre du sculpteur Emmanuel Ball et du fondeur Michel Jacucha, Calcolithique doit être son nom d'artiste. C'est donc avec une certaine satisfaction que les associations laïques vont pouvoir enfin, presque un siècle après, remettre en place là où il était originellement posé en 1905, donc, la statue du chevalier de la Barre, pour honorer dans cette colline assez abjecte de triomphalisme réactionnaire contre le symbole de la commune, pour honorer au moins un aspect laïque du quartier qui ne saurait manquer d'intéresser les visiteurs et en même temps de leur faire valoir cet aspect de notre société qu'il convient dans un pays où la religion n'est pas une religion d'État, qu'il convient de défendre, de valoriser et de faire apparaître au grand jour.
Maréchal, nous revoilà, nous les petits enfants de France, nous que tu as rassérénés, à qui tu donnais l'espérance et des biscuits vitaminés. Maréchal, nous sommes là pour demander ton indulgence, car comme le Armies. C'était toi la vraie résistance, c'est ça qu'on n'avait pas compris. C'est vrai qu'on s'en serait pas douté, que maréchal tu résistais, quand de montoir tu nous disais, français il faut collaborer, quand t'envoyais ta LVF combattre l'armée des soviets, alors qu'on pensait bêtement, c'est peut-être pas le moment. Maréchal,
maréchal,
nous revoilà,
nous revoilà,
nous qui allions les jours de fête chanter à Lille ou à Mâcon ton hymne de nos voix fluettes, sans savoir qu'il était si con. Maréchal,
maréchal,
nous revoilà,
nous revoilà,
toi qui n'étais pas responsable de tous les carimes hitlériens, puisque bon vieillard respectable, évidemment, t'en savais rien. C'est vrai, maréchal, tu ignorais que tes miliciens torturaient, tu condamnais De Gaulle à mort, sans savoir que ça lui ferait du tort. Quand Hitler t'a dit, vite, vite, votez les lois antisémites, tu as dit, trop tard, mon Führer, je les ai fait voter hier. Maréchal,
maréchal,
nous revoilà,
nous revoilà,
nous les anciens de la famine, pour te remercier des biscuits, car je sens que ta vitamine va faire son effet aujourd'hui. Maréchal,
maréchal,
nous sommes là,
nous sommes là,
pour que certains sortent d'un doute, toi qui disais que les Français avaient tous la mémoire courte, ils vont voir que tu te trompais. Maréchal,
maréchal,
nous revoilà,
nous revoilà.
Maréchal,
maréchal,
nous sommes là,
nous sommes là.
Maréchal,
maréchal,
nous revoilà,
nous revoilà.
Maréchal,
maréchal,
nous sommes là,
nous sommes là.
Maréchal,
maréchal,
nous revoilà,
nous revoilà.
Maréchal,
maréchal,
nous sommes là,
nous sommes là.
Vous venez d'entendre la chanson « La bien nommée Maréchal, nous revoilà » de Georges Coulonges pour les paroles, Jean Ferrat pour la musique et Juliette Gréco pour l'interprétation. Chanson qui vient bien à point pour nous rappeler donc que c'est en 1942 que, sous le gouvernement de Pétain, on a décidé de faire disparaître cette statue que aujourd'hui, presque 60 ans après, il est possible de remettre là où elle n'aurait jamais dû disparaître. Auparavant, nous avons entendu Glenmore interpréter sa composition « Vivre ». Je crois qu'il n'est peut-être pas inintéressant de se replonger un peu dans l'histoire de Chevalier de la Barre. Oh, c'est pas, comme diraient nos amis puriste, un héros entièrement positif, le chevalier de la Barre. Mais il importe, pour la vérité historique, puis peut-être pour bien comprendre des articulations, d'évoquer cette affaire. Et elle arrive au terme d'un certain nombre d'événements dans lesquels le manque de respect au Saint-Sacrement, vous allez le voir, sert plus de prétexte à un règlement de compte que véritablement le motif de l'exécution. Néanmoins, l'exécution a eu lieu sur ce motif. Qui était ce chevalier de la Barre et d'où venait-il ? Il faut remonter un peu plus d'un siècle avant. Le 31 juillet 1638, Antoine Lefebvre devient chevalier de la Barre. Il était bourgeois. Il achète une charge au Conseil au Parlement de Paris, les gens chargés d'appliquer la loi royale. Il achète une charge de 18 096 livres et il devient ainsi chevalier de la Barre, devient propriétaire des terres de la Barre et à ce titre recevra la gabelle. Pendant 90 ans, la famille Labarre va monter en puissance, comme on dirait aujourd'hui, augmenter sa richesse en la fondant sur le capitalisme colonial. Elle obtiendra une grande respectabilité en France à ce titre. Quant à nous, je ne sais pas s'il faut estimer que cette respectabilité est bien méritée à travers la manière dont elle a été acquise. Toujours est-il qu'au début du XVIIIe, vers 1700, cette montée en puissance s'arrête un peu. Les générations se suivent et ne se ressemblent pas. Les nouveaux là-bas n'ont plus envie de faire les affairistes. Ils veulent profiter de la vie et de la richesse obtenue. Résultat, bien entendu, ils s'appauvrissent. Très vite, Jacques et François de la Barre devront vendre le domaine et trouveront refuge chez leur cousine, Anne-Marguerite Feydeau, qui est abbesse de l'abbaye de Villancourt à Abbeville. Une abbesse ambitieuse qui va soigner ses cousins, qui tient cours, quoi, et qui va donc leur permettre de vivre confortablement. Dans une vie, on peut bien dire, d'oisiveté et de mondanité. Côté de cela, il y a le mailleur d'Abbeville, qui est Duval de Soicourt, qui dispose de l'autorité royale, qui peut faire arrêter, torturer. Et à l'abbaye, on n'a pas peur de lui, on le néglige un petit peu. Voilà, alors dans cette abbaye, l'abbesse en question mène grand train et a quelques autres, Bertrand d'Étalonne, reçoit d'autres jeunes, Pierre-François de Bellinel. Des jeunes nobles qui veulent un petit peu bousculer l'establishment, comme on dirait, moins pour faire la révolution prolétarienne que pour prendre la place de ceux qu'ils convoitent. Mais donc ils ont des velléités d'effronterie, mais tout en respectant le roi et en souhaitant qu'il reste en place. Voilà donc le contexte dans la bonne ville d'Abbeville à cette époque-là. Et puis, il y a des accusateurs du roi. Il y a Philippe Béquin qui va être l'accusateur du roi, et puis son assesseur, donc, on en a parlé, Duval de Soicourt, qui se trouve avoir un fils, Pierre-Nicolas Duval de Soicourt, qui a 30 ans. Et il aimerait bien, ce monsieur Duval de Soicourt, marier ce fils à la fille de monsieur Béquin, le lieutenant criminel du roi, qui est mort, et ce parti, arranger ce mariage avec son fils, lui plaît bien. Mais il n'est pas noble, et voilà qu'à ce titre, il reçoit un refus, et la jeune femme, la fille de M. Béquin, se réfugie chez l'abbesse. Le voilà donc très vexé, il va chez l'abbesse, il se fait jeter. Et finalement, il y aura mariage entre cette demoiselle Béquin et Pierre-François, Savieux de Belleval. C'est donc une victoire du clan de l'abbesse Feydeau contre Duval de Soicourt qui s'en trouve humilié. Là-dessus, dans la nuit du 20 au 21 décembre 1764, des vitres sont cassées dans des maisons, dont celle de Duval de Soicourt. et par des jeunes, dont, dit-on, le jeune François-Jean de la Barre. Il faut défendre l'honneur du roi, le jeune de la Barre est inculpé, l'abbesse Feydeau va intervenir en passant par ses accointances royales, et du coup, le jeune sera non-lieu, comme on dirait aujourd'hui. En fait, il semble bien qu'il était non-lieu, quoi. Il n'était pas dans le coup de cette affaire. Il s'agissait, semble-t-il, donc d'un premier coup monté pour essayer de l'atteindre. Le 6 juin 1775, place Saint-Pierre à Abbeville, au moment où la foule est à genoux pour accueillir le Saint-Sacrement qui sort de son antre, hein. Trois jeunes oiseaux fendent la foule, font les pitres et traversent donc cette foule, une foule qui se déclare choquée par le manque de vénération. Il y a des témoins, entre autres notre inévitable Duval de Soicourt, puis d'autres, la population. Autre affaire, un mois plus tard, le 9 août 1765, Marie-Madeleine Lellier constate que le Christ du pont est mutilé. Je sais pas, il était peut-être en bois ou en pierre, enfin on aurait tapé dessus. Il y a des morceaux de cassés. Et comme elle a une vue très fine, cette dame, et elle a en plus la foi, elle a vu que le Christ saignait. Oh là là. Un peu plus loin, un autre Christ, lui, aurait été souillé avec des excréments. Bref, le 10 août à 11 heures, la justice est sur place et constate. Bien entendu, Duval de Soicourt est là, avec le procureur, et il demande à l'évêque d'organiser une cérémonie d'expiation du crime contre le Christ. Le curé Filou accepte à condition que les autorités civiles viennent. C'est donnant-donnant. Hein. Et le 13 août à 8 heures, l'info judiciaire est ouverte. On cherche les témoins de la mutilation. On n'arrive pas à trouver grand-chose. Il va donc falloir inventer. Et dans ces cas-là, on ne s'en prive pas. Le 13 août, une déposition est faite par un maître d'armes, Étienne Nature, qui a entendu dire que Delalande, Delabarre et Moinel, dans la salle d'armes, il a entendu ça, se vantaient de leur bravade de la cérémonie du 6 juin. C'est un témoignage spontané, deux mois après, d'autant plus bizarre que si Delabarre allait effectivement régulièrement dans cette salle d'armes, les deux autres, on ne les voyait pratiquement jamais. Donc, confidence bizarre. Néanmoins, le témoignage est recueilli. Et le 14 août, Moinel, 17 ans, lui, est convoqué par notre fameux Duval de Soicourt. Et il dit... Il implique le fils d'Ouville qui aurait raconté l'histoire de la profanation d'une hostie qu'on aurait poignardée. Enfin, du coup, Duval de Soicourt convoque d'Ouville aussitôt le jour même et il étend ainsi son enquête ponctuelle à une vaste conspiration, utilisant pour cela un marchand marron qui vit au crochet de l'abbesse et accepte de témoigner pour Duval de Soicourt d'une histoire où Delabarre aurait réclamé un crucifix pour le casser. Bref, les choses avancent et la cérémonie d'expiation a lieu le 8 septembre 1665. C'est le grand jeu. Le de la sonne, procession avec miséréré, l'évêque, 82 balais, tel Jean-Paul II, pieds nus, une corde au cou et un cierge à la main, avance avec peine et dans l'idée de monter la population contre les coupables. Il déclare, citation, « En faisant cela, ils se sont rendus dignes des derniers supplices en ce monde et des peines éternelles en l'autre. » Voilà donc un bel exemple de commisération pour son prochain donné par cet évêque.
Que veut cette maudite engeance, cette canaille à jupon noir? Elle veut étouffer la France sous la calotte et les peignoirs. sous la calotte et les traînoirs. Mais de nos bulles, le teint de vote, nous accableront ces gredins. Et les voix de tous les scrutins leur crieront à pas la calotte aux urnes citoyens. Contre les cléricaux, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Quoi ces curés et leurs vicaires feraient la loi dans nos foyers? Quoi ces assassins de nos pères seraient un jour nos meurtriers? Seraient un jour nos meurtriers? Car ces cafards de vile race sont nés pour être inquisiteurs. À la porte les imposteurs, place à la République, place aux urnes citoyens. Contre les cléricaux, votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux.
Je peux rappeler en passant que le dernier supplicié, c'était pas tellement vieux, c'était Damien qui avait raté Louis XV et donc qui accusait de régicide, donc avait été exécuté sauvagement le 28 mars 1757, donc 8 ans plus tôt. Plus qu'au roi, dit l'évêque, c'est à Dieu qu'on a fait insulte. Du coup, l'abbesse Anne-Marguerite Feydeau de Villancourt commence à s'inquiéter sérieusement pour son cousin. Belval lui aussi craint pour son fils et son pupille Moinel. Et donc il va les mettre à l'ombre. Avant, ils auront eu le temps d'être interrogés et le 12 septembre, Belval dépose et accuse de la barre. Bref, tout le monde charge les deux petits malins. Là, se sont dit qu'en chargeant sur de la barre, ils s'exempteraient sûrement de toute poursuite. Et le 13 septembre, une nouvelle plainte, Duval de Soicourt met tous les actes sur le comte de Delabarre. Le coup est bien. Le coup est bon, et le 26 septembre, Duval de Soicourt invite le procureur du roi à lancer un décret de prise de corps, dit-il, contre Delabarre. Moinel, Gaillard, des Talondes. Le décret est du 27 septembre 1765. Des Talondes est déjà barré. Moinel aussi. Delabarre, sur conseil de l'abbesse, va se planquer chez les moines dans une abbaye proche de Longvilliers avant de s'embarquer pour l'Angleterre. Mais le chevalier, pas plus inquiet que ça, 19 ans, tranquille, allait donc avec son cheval, sans savoir qu'une expédition avait été montée avant son départ de l'abbaye. Cette expédition, dirigée par un certain Charles-Joseph Hourdel, le suit. Et le 30 septembre, il apprend, chevalier, et Charles-Joseph Jourdel apprend que le chevalier est déjà à l'abbaye. Donc le voilà qui va devoir ruser. Il met dans le coup le prévôt de Boulogne, la maréchaussée de Boulogne. Et le 1er octobre, ce prévôt va déjeuner à l'abbaye avec Delabarre et lui demande de sortir après lui. Delabarre n'accepte pas bien, mais ne se méfie pas assez. Il proteste simplement contre le manque de civilité dû à son rang, mais bon.
Comme tu es chemise, comme la ronce en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations, mais il n'en reste qu'une. Au travers de l'histoire, qui est su nous donner toute satisfaction, le sabre et le goupillon. L'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions, et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences et maint beau capitaine reposaient le guerrier de la même façon dans le salon chinois où Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires. On leur offrait des guerres et des expéditions. Que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions, du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient, et d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre, ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition des craques en sombre rêveuse, des forts en télérum, qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon.
Il le suit et ce Prévost donc l'installe à l'auberge de Montreuil. Et puis on repart, ils ont fait route ensemble, donc pour le château de Ponteux à Abbeville. Et là, quand il se rend compte que là où il arrive, c'est trop tard, des archers sont tout autour, c'est la prison pour François-Jean Lefebvre, chevalier de la barre. Et le 2 octobre 1765, le décret de prise de corps lui est confirmé. À partir de là, eh bien, il va passer donc un certain temps en prison, le jugement, la prison, et puis on en arrivera à l'exécution. Voici maintenant un extrait de l'arrêt de la Cour parparlementaire de Paris en date du 4 juin 1766, statuant sur le crime d'impiété et portant sentence définitive contre Jean-François de la Barre à la requête du substitut du procureur général du roi, demandeur et accusateur. Attendu que le sieur de la Barre ait été dûment atteint et convaincu, 1. D'avoir, par son impiété et de propos délibérés, passé le jour de la fête Dieu dernière à 25 pas du Saint-Sacrement que l'on portait à la procession des religieux de Saint-Pierre d'Abbeville, sans ôter son chapeau qu'il avait sur la tête et sans se mettre à genoux. 2. D'avoir chanté 2 chansons impies remplies de blasphèmes les plus énormes et les plus abominables mentionnées au procès. 3. D'avoir rendu les marques de respect à des livres infâmes, dits philosophiques, au nombre desquels se trouvait le dictionnaire philosophique portatif du sieur Arouet de Voltaire, qu'il avait placé sur une planche dans sa chambre, et devant lequel il passait en disant qu'on devait respect à ces livres plus qu'au très saint tabernacle. Pour réparation de quoi ledit chevalier de la Barre a été condamné à faire amende honorable devant l'église collégiale de Saint-Vulfranc à Abbeville, où il sera conduit par l'exécuteur de la haute justice, et là, étant à genoux, nu-tête et nu-pied, ayant la corde au cou, écriteau devant et derrière, portant, impie, blasphémateur et sacrilège abominable et exécrable, et tenant en ses mains une torche de cire ardente au poids de 2 livres, dire et déclarer à haute intelligible voix qu'il se repent de ses crimes et en demande pardon à Dieu, au roi et à la justice, et au dit lieu avoir la langue arrachée, cela fait, être conduit dans un tombereau à la place publique du grand marché de la ville pour, sur un échafaud qui y sera dressé, avoir la tête tranchée et son corps ensuite jeté avec la tête au feu dans un bûcher ardent afin d'y être brûlé avec l'exemplaire saisies du dictionnaire philosophique, et les cendres jetées au vent, et avant l'exécution sur le dit chevalier de la barre, appliquer la question ordinaire et extraordinaire pour avoir par sa bouche la vérité sur tous les autres faits résultant du procès et la révélation de tous les complices d'impiété. Ce texte que nous venons de vous lire n'est pas un document de fiction, un roman d'une autre planète, c'est un extrait d'un arrêt de la Cour parlementaire de Paris en date du 4 juin 1766, et cet arrêt sera exécuté comme il a été écrit et dit, donc à l'endroit du chevalier de la barre. Cette sauvagerie sans nom, qu'on a rencontrée plusieurs fois dans les œuvres de la collusion entre l'Église et le pouvoir politique, on peut penser à l'Inquisition, bien sûr, et à d'autres méfaits, comme les croisades, bien. Et puis peut-être même des choses plus récentes, dans la collusion entre les régimes fascistes, espagnols par exemple, et l'Église. On peut voir à quelles extrémités se laissent très facilement aller ces apôtres de la charité et du bien vivre ensemble, au nom d'une existence de Dieu qui ne saurait être contestée par les citoyens.
Monsieur Texas, je t'écris de très loin des États-Unis. C'est pour te demander la grâce de l'homme qui doit mourir demain, innocent ou même assassin. Monsieur Texas, c'est pas bien de donner la mort à quelqu'un, innocent ou même assassin, juste pour devenir le président même de tous les Américains. Je te renvoie la panoplie de cow-boys de quand j'étais petit. Monsieur Texas, je te préviens, quand nous serons tous américain, je resterai du côté des Indiens.
Le dernier matin de François-Jean Lefebvre, chevalier de la barre. Il est bientôt. En ce 1er juillet 1766, le chevalier de la barre est tiré de son sommeil. Des hommes à la mine grave le regardent, sont réveillés calmes. Tous ces hommes représentent, chacun en ce qu'il concerne, un élément du mécanisme pénitentiaire. Il y a là deux exempts et leur lieutenant Merlin, un dominicain, le père Bosquier, un greffier, maître Marcoute. Un homme est resté sur le seuil, il porte une culotte blanche, une veste rouge brodée d'une potence et des escarpins noirs. Dans son dos, il tient son bicorne incarnat. C'est monsieur le maître des hautes œuvres de Paris. Il n'aime pas que l'on dise le bourreau quand on parle de lui. Ce matin, ce n'est pas un matin comme les autres pour le chevalier de la barre. C'est celui de son dernier matin. Depuis le temps que dure son procès, il faut bien conclure d'une façon ou d'une autre. Tout à l'heure, Samson lui tranchera la tête. Cette exécution aura lieu sur la grande place d'Abbeville. Le parlement d'Abbeville a prononcé une sentence. Le parlement de Paris, auprès duquel il a été fait appel, l'a confirmé. La signature du procureur général du roi, Joly de Fleury, l'a rendu exécutoire. Que passe la justice du roi?
La cigarette sans cravate. On fume à l'aube démocrate et le remords des coups de jatte avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre et la pitié à la fenêtre et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe comme un paquet vers les étoiles qui tombe froide sur la dalle et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces bois que l'on dit de justice et qui poussent dans les supplices et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ceux que la société rejette sous prétexte qu'ils n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu.
Les éléments d'information que nous avons utilisés au long de cette émission, nous les devons à l'association Le Chevalier de la Barre, et plus précisément, nous les tirons d'un petit opuscule que Stéphane Godris a écrit et signé le 24 mars 1999 pour éclairer les populations d'aujourd'hui sur cette histoire du chevalier de la Barre. Il s'est, dit-il, largement inspiré du livre de Max Gallo Que passe la justice du roi, à qui il doit d'avoir pu écrire ces quelques pages que nous avons évoquées. Alors, le chevalier de la Barre, un militant de la laïcité, de la cause des droits de l'homme, non, de toute évidence, c'était un jeune homme très jeune et qui était effronté, on va dire, mais sans véritable intention politique, disons, ou militante par rapport à la religion ou à la royauté encore moins. Donc si aujourd'hui on le célèbre et on le vénère, c'est sans doute plus à travers le symbole de cette laïcité et de l'exaction dont il fut victime, même si on l'a vu dans l'histoire, les motifs profonds et l'acharnement de ce sinistre Duval de Soicourt ne sont pas dans le fait du religieux qu'il s'est contenté d'utiliser, mais certainement dans une affaire personnelle où il a été vexé. L'origine de la fin, finalement, aussi sinistre soit-elle, ce qui d'ailleurs ne retire rien et montre combien la justice peut mal fonctionner et dériver pour permettre ce genre d'instrumentalisation. Donc nous honorerons, en toute connaissance de cause, le chevalier de la Barre au titre de ce droit à la laïcité et de ce non-droit au nom de la religion d'assassiner et de torturer, de faire mourir d'atroces souffrances un citoyen. Voilà, nous tenions nous associer à cette commémoration, puisque depuis plusieurs années, nous suivions avec intérêt et nous soutenions la réhabilitation du chevalier et de sa statue en un lieu où elle mérite toute sa place.
Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux. Athée, j'habite en bas de ton toit prétentieux. En fumeur de Havane, gros beauf qui te pavane au milieu des charniers avec tes Doberman. Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux. Pacha, mauvais Sherpa, coupeur de bites en deux. PDG des nuages, vendeur de faux voyages, dealer de poudre aux yeux, metteur de filles en cage. Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux. Le monde, et pourquoi pas, un gosse aurait fait mieux. Fais l'amour à l'atome, doubler la couche d'ozone, Ève aurait-tu le droit de faire des tartes aux pommes. Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux. Je suis né à Cuba, quelque part en banlieue. Et pour sa Washington, ton pape et ta madone, l'univers les oublie et Satan les pardonne. Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue pas, toi qui vis dans les cieux. À mon dernier repas, appelle-moi monsieur. Pas mon fils ni machin, un père j'en ai déjà un, qui arrachait les clous quand on clouait mes poings. Je ne te salue pas, toi qui te crois mon Dieu. Je ne te salue plus, toi qui vis dans les nues. Si ton plafond s'effondre, épargne un peu le monde. Mais comme moi sois sauvé, ceux qui savent leurs aves. En ce qui me concerne, je balance un pavé. Un pavé rouge et bleu dans la vitre des dieux. Ce petit lettre sans clocher, une insulte pour t'approcher.
Il nous reste à vous donner des informations sur les morceaux de musique que vous avez entendus. Nous venons d'entendre Alain Leprest, Je ne te salue pas, qui s'imposait auparavant le Ni Dieu ni Maître de Léo Ferré, enregistré en public en 69. Une chanson complètement inédite, Monsieur Texas, c'est une composition de Pierre Delorme qui l'interprétait, un document. Auparavant encore, Le Sabre et le Goupillon de Jean Ferrat, interprété par Jean Ferrat, et un extrait de la Marseillaise anticléricale, 1881, interprété par Marc Augeret. Thank you.
Oh.